chapitre 30. En dépit de la nuit splendide qui avait commencé la nouvelle année, la première journée fut abominable. Une averse continuelle, pas un instant de répit, pas le plus petit rayon de soleil depuis le matin jusqu'au soir. « Cette nouvelle année est pareille au Richard de Shakespeare, » dit Lord Mallow, scrutant l'horizon après le déjeuner, debout sur le perron. Capricieuse et obstinée fut son enfance. Je n'ai jamais rien vu d'aussi agaçant. Moi qui toute la nuit avais rêvé de notre promenade à cheval. » Vixen l'interrompit d'un air moqueur. « Ne craignez-vous pas de ressembler à ces affreux hommes de la balade de Locksley Hall ? Comme un chien, il chassait en rêve. » Elle était sur le seuil, jouant avec Argus. On eût dit un tableau, une allégorie de la beauté saine et robuste. Sa robe vert foncé, à peine rehaussée par la toile blanche et plate du col et des manchettes, était, comme tous ses costumes du matin, d'un goût parfait, mais d'une extrême simplicité. Costume pratique qui ne l'embarrassait jamais, quoi qu'elle fît, jouer avec son chien, inspecter les écuries, travailler au jardin, errer dans la forêt, elle n'était point arrêtée par la crainte de déchirer dentelles ou rubans. « Les toilettes du matin de Violette sont vraiment trop sérieuses, » disait Mrs. Winstanley avec un vague gémissement. À la voir ainsi attifée, on la prendrait pour une de ces conférencières errantes qui parcourent le pays en discourant sur les droits des femmes. « Pas de promenade à cheval ce matin, » dit le capitaine Winstanley, entrant dans le hall avec un paquet de lettres à la main. « Je vais dans mon cabinet. Ce sera une matinée de lettres et de comptes, à moins que vous n'ayez besoin de moi pour chasser le faisan, Mallow. »« Laissons-les tranquilles pour le premier jour de l'an, » répondit Lord Mallow. « Je suis certain que vous préférez mettre votre correspondance au courant que d'aller tourmenter de malheureux oiseaux sur un terrain boueux. Et moi-même, je préfère rester à la maison, si ces dames veulent bien tolérer ma présence. J'aiderai Miss Tempest à dévider ses laines. Je vous remercie, mais je ne fais jamais de tapisserie. Maman est une artiste en ce genre. Alors, je me place sans réserve au pied de Mrs. Winstanley. « Vous êtes trop bon, » répliqua celle-ci. « Mais je ne toucherai pas à ma tapisserie aujourd'hui. J'ai la migraine. C'est un châtiment qui m'est souvent infligé lorsque je vais dans le monde. Je crains bien d'être obligé de me coucher une heure ou deux. » Puis, avec un sourire langoureux, Mrs. Winstanley s'enveloppa dans son crêpe de chine et monta lentement à sa chambre, laissant Lord Mallow et Violette, seuls maîtres du grand hall, lambrissés de vieux chênes. Vixen, assise sur le rebord de la fenêtre, regardait la pluie et Lord Mallow en faisait autant devant la porte ouverte. C'était une de ces douces matinées d'hiver où le feu qui flambe au foyer n'est guère utile que pour ajouter un peu de gaieté au décor intérieur. Violette songeait à cette longue matinée pluvieuse qui avait marqué la majorité de Roderick un an auparavant. Elle se voyait encore assise à la même place, maudissant l'interminable pluie. Elle se rappelait la tristesse qui avait envahi son cœur à la pensée qu'elle était oubliée et délaissée par son amie d'enfance. Et au même instant, alors qu'elle avait perdu tout espoir de le voir, il apparaissait dans la clarté de la fenêtre, émergeant de cette nuit humide du dehors, la prenait dans ses bras et l'embrassait avant qu'elle ait pu se douter de ce qu'il faisait. Aujourd'hui encore, le souvenir de ce baiser la faisait rougir. À cette époque, elle y avait attaché peu d'importance, mais maintenant, c'était une tache de honte sur la blanche pureté de sa jeunesse. Une morsure cuisante qui faisait tressaillir son âme. Il a dû penser que je l'aimais, sans cela, il n'aurait pas dû me traiter de la sorte, se disait-elle. Mais nous avions été si longtemps amis d'enfance. Je le taquinais et il ripostait. Nous étions réellement comme frères et sœurs. Pauvre Rory, si nous avions pu rester toujours enfants, notre amitié serait devenue de plus en plus intime. Comme vous paraissez songeuse ce matin, Miss Tempest, dit une voix derrière l'épaule de Vixen. Vous croyez, répondit-elle en se retournant vivement. Le premier jour de l'an rend l'esprit rêveur. C'est un nouveau chapitre de la vie que l'on commence, et l'on ne peut s'empêcher de se demander comment il finira. Pour vous, ce sera une histoire pleine de bonheur. Mais vous ne connaissez pas mon histoire. Mon enfance a été trop heureuse. J'ai vidé ma coupe de bonheur avant de devenir une femme. Et maintenant, il ne me reste plus que la lie. Il y avait dans sa voix une intensité d'amertume qui impressionna profondément Lord Mallow. Elle si belle, si charmante, elle qui lui était si chère, elle dont la vie semblait devoir être un été sans nuages, qu'elle pût exprimer un chagrin aussi enraciné, c'était plus qu'il n'en pouvait supporter. Violette, il ne faut pas parler ainsi, vous me blessez jusqu'au fond du cœur. Chère, chère Violette, vous êtes née pour être la source du bonheur, le centre d'où rayonnent toutes les joies. La souffrance ne devrait jamais vous approcher. La tristesse n'est pas faite pour vous, vous êtes le bonheur et la lumière même. « Taisez-vous, » s'écria-t-elle avec vivacité. « Je vous en prie, taisez-vous, tout cela est inutile et vain. Ma vie est tracée en dehors de moi. Personne n'y peut rien changer. Je vous en prie, pas un mot de plus. » Vous le regretteriez pour vous d'abord et pour moi ensuite. Violette, il faut que je parle. Pourquoi ? Mon destin est écrit comme celui des étoiles, personne n'y peut rien. Aucun mortel peut-être. Violette, mais l'amour le peut, car l'amour est un dieu. Oh mignonne, j'ai appris à vous aimer tendrement pendant ces quelques jours, et j'ai résolu de vous conquérir. Je ne sais ce que je deviendrai si j'échoue. Chère Violette, si la constance et la sincérité peuvent conjurer le sort, je suis homme à vous conquérir. Vous n'aimez personne, n'est-ce pas ? Demanda-t-il avidement, en fixant les yeux sur la figure baissée de la jeune fille. Une vive rougeur colora ses joues et disparut avant qu'elle ait fait sa réponse. Ne voyez-vous donc pas combien ma vie est vide ? Demanda-t-elle avec un amer sourire. « Je n'aime personne, je suis seule. La mort m'a enlevé mon père, votre ami m'a volé ma mère. Mon ancien camarade d'enfance appartient à sa cousine, moi je n'appartiens à personne. Alors soyez à moi, Violette. Ah, si vous saviez combien je vous chérirais, vous serez aimée tellement que vous croirez dominer le monde. Laissez-moi m'emparer de ce trésor sans prix que les autres ne savent pas apprécier. » Laissez-moi vous prendre et vous garder. Je ne vous ferai pas l'injure de vous épouser sans vous aimer, et je n'aimerai jamais, dit Vixen avec une fermeté calme, plus désespérante que les protestations les plus violentes. Parce que toute jeune, j'ai épuisé ma puissance d'aimer. J'ai aimé mon père, je ne puis dire à quel point. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de pères aimés comme celui-là. J'ai mis à ses pieds tous mes trésors d'affection. Il ne me reste plus d'amour pour un mari. Quoi, Violette, pas même si votre vieil ami Rodrigue Vaudrey vous suppliait ? Demanda Lord Mallow. Malencontreuse parole. Si Lord Mallow avait eu la moindre chance de succès, et il n'en avait pas, cette parole la lui aurait enlevée. Violette se redressa, les joues enflammées, l'œil étincelant. « C'est honteux, abominable de parler ainsi !» s'écria-t-elle, tremblante d'indignation. « Je ne vous pardonnerai jamais cette infamie. Ici, Argus !» Elle avait monté le large escalier de chêne d'un pas vif et léger, avant que Lord Mallow pût s'excuser. Il était profondément vexé. « Je ne suis qu'un sot, » murmura-t-il. « Mais j'ai touché juste. C'est ce gaillard-là qu'elle aime. Le coup est rude. » Moi qui ne demandais qu'une chose, être son esclave et lui donner ma vie. Et je suis sûr que Winston Lay n'aurait pas demandé mieux. Comme elle était belle dans sa colère. Ses cheveux dorés brillaient à la flamme du foyer, ses grands yeux étincelaient. Oui, celui qu'elle aime, c'est ce grand veneur du Hampshire. Pour moi, je n'ai aucun espoir. Allons chasser le faisan, conclut Lord Mallow avec rage. Voilà des oiseaux qui n'auront pas d'agrément aujourd'hui. Il alla chercher son fusil, maussade, furieux, mécontent de lui-même et des autres. Toute la journée, dans la boue jusqu'à mi-jambe, il fit un effroyable carnage de pauvres oiseaux innocents. Son humeur était si sanguinaire qu'il eût été capable, moderne Hérode, de tuer toute une jeune couvée d'enfants. « J'ai dû bien endommager les réserves de Lord Winstanley, » se dit-il, en reprenant le chemin de l'abbaye à la nuit tombante. Il était 5h15 lorsqu'il pénétra dans le hall où avait eu lieu son entrevue avec Vixen. Le capitaine était assis devant un feu bien flambant. « Vous êtes allé quand même à la chasse, mon vieil ami, » dit-il sans se retourner. Il avait reconnu le pas de Lord Mallow. « Vous avez probablement trouvé la maison trop triste. Quel temps affreux ! Vous devez être mouillé jusqu'aux os !»«
Je le crois, » répondit l'autre avec insouciance. « Mais je me suis fait tremper plus d'une fois, et je n'en ai jamais éprouvé grand mal, grâce aux imperméables. On est mouillé en dehors, et pas du tout en dedans, voilà tout. »
« Ôtez donc votre caoutchouc et venez causer. Vous prendrez bien quelque chose, n'est-ce pas ? Du kirsch, du curaçao. »«
Du kirsch, » répondit Lord Mallow, « et beaucoup. Je suis dans cette disposition d'esprit qui exige qu'un homme boive beaucoup ou se coupe la gorge. »
« Le gibier était-il inabordable ? » demanda le capitaine en riant. « Ou bien les chiens étaient-ils en défaut ? » ?»«
Les oiseaux et les chiens se sont très bien comportés, mais... » « Je crois qu'il faut passer l'éponge sur tout cela. J'ai passé quelques jours charmants ici. Ah, voici le kirsch. »«
Arrêtez-vous donc, mon cher !» s'écria Lord Mallow, s'adressant à son hôte qui lui versait la liqueur dans un verre à soda.
« Il ne faut pas prendre mes paroles à la lettre, que diable ! Un peu dans le fond du verre, c'est suffisant. »«
Très bien, vous disiez, que mon séjour ici a été délicieux et qu'il faut que je retourne à Londres demain par le premier train. »
Quel paradoxe ! Cela ressemble au dire d'un domestique bien dressé, lequel proclame sa position chez vous on ne peut meilleure, mais in petto se dispose à vous quitter à la fin du mois. Qu'y a-t-il, mon cher ami ? Trouvez-vous trop triste notre ermitage de la forêt ?
Je ne demanderai qu'à passer ma vie dans votre forêt.
Oui, je dirai volontiers adieu aux montagnes et aux vallées du comté de Cork, et je deviendrai un affreux déserteur si... La fortune me souriait, mais elle me tourne le dos, et il faut que je parte.
Peut-être vous êtes-vous aperçu, vous n'êtes peut-être pas opposé à l'idée. En un mot, je suis devenu amoureux fou de votre adorable belle-fille.
Mon cher ami, j'en suis enchanté, je ne pouvais pas deviner quelque chose de plus heureux.
Évidemment, Violette en est charmée, vous lui convenez parfaitement.
Vous croyez ? Je le pensais aussi jusqu'à ce matin. Malheureusement, la jeune personne n'est pas du même avis. J'ai été refusé.
Violette vous a refusé ? Reprit le capitaine.
Bah, elle commence toute par là. C'est une des petites diplomaties de leur sexe. Elles pensent rehausser leur valeur par une résistance simulée. Folie, mon cher, essayez encore. Elle ne peut pas ne pas vous aimer.
J'essayerai encore tous les jours pendant 12 mois si j'avais le moindre espoir.
Ma vie se passerait à prier, à supplier, mais la chose est bien décidée. J'ai parfaitement vu que je n'avais aucune chance. J'avais la fatuité de me croire un assez gentil garçon, et les femmes m'y ont encouragé. Mais ici, je ne réussis pas, Winstanley. Miss Tempest est de glace pour moi.
« C'est une petite folle, » dit le capitaine, les dents serrées, le regard plein de menaces.
« Je lui parlerai. » « Comprenez bien, mon cher Winstanley, que je ne veux pas de contraintes. Si je l'obtiens, j'entends ne la devoir qu'à moi-même. J'ai beau l'aimer, je ne voudrais pas d'elle si vous me l'ameniez soumise et vaincue comme Iphigénie au pied de l'autel. Je l'aime trop pour lui demander n'importe quel sacrifice et pour accepter moins que son cœur libre et tout entier. » Elle ne peut pas me donner cela, il faut donc que je parte. J'aime mieux que vous ne disiez rien de moi, ni à sa mère, ni à elle.
J'ai beaucoup à dire au contraire à toutes les deux, s'écria le capitaine exaspéré. Je suis indigné de la conduite de Violette. Que diable attend-elle d'un mari ? Vous avez la jeunesse, la bonne mine, la santé, le talent, des goûts qui s'harmonisent avec les siens. Vous lui offrez une position qu'elle n'avait pas le droit d'espérer, et elle vous refuse. C'est une enfant gâtée qui ne sait pas ce qu'elle veut, ni ce qu'il lui faut. Elle a un caractère diabolique. C'est une sauvage. Ma foi, je vous félicite de votre échec, Mallow. Elle n'est pas née pour rendre un homme heureux.
Je ne vous remercie pas de vos félicitations, répartit l'Irlandais. elle m'aurait rendu heureux si elle l'avait voulu. Je lui aurais pardonné son caractère fantasque, et je l'aurais aimé pour sa sauvagerie. C'est la femme la plus délicieuse que j'ai jamais connue, mais elle n'est pas pour moi. Le destin n'est pas assez généreux à mon égard. Elle changera d'idée avant peu, dit le capitaine. Son père et sa mère l'ont gâtée. C'est une créature toute de boutades et de caprices, et il s'agit de ne pas lui lâcher la bride au tournant.
Ce n'est pas moi qui serrerai la martingale, protesta Lord Mallow. Mais à quoi bon parler de tout cela? Vous ne me croirez ni ingrat ni impoli si je prends congé de vous demain matin, n'est-ce pas, Winstanley?
Certainement non, répondit son hôte. Mais je vous prendrai pour un nigaud.
Pourquoi ne pas rester et tenter un nouvel effort?
Simplement parce que je sais que ce serait peine perdue.
La sincérité brillait dans les yeux de cette jeune fille. Son âme est au-dessus des fades coquetteries de son sexe. Un non sorti de ses lèvres veut dire non. Oh, il sera bien heureux, l'homme auquel elle répondra oui, car elle lui donnera le cœur le plus aimant, le plus loyal, le plus sincère qui ait jamais battu dans la poitrine d'un être humain.
Vous répondez d'elle bien hardiment pour la connaître depuis si peu de temps.
Je réponds d'elle comme un homme qui aime et qui a lu dans son âme.
Vous ne vous entendez pas très bien tous les deux, j'imagine.
Non, nous avons commencé par nous détester, et nous en sommes restés là avec une admirable constance.
Je ne puis comprendre.
Vous comprendrez peut-être un jour, si jamais vous avez une jolie belle fille qui vous déteste à première vue.
On ne chanta pas de duo ce soir-là. Vixen était froide comme la glace et silencieuse comme une statue. Après le dîner, elle resta assise derrière le fauteuil de sa mère, tournant les feuillets d'un roman de Tennyson, illustré par Doré, s'arrêtant pour regarder Hélène avec une dédaigneuse pitié. « Pauvre malheureuse, songeait-elle, les femmes de nos jours sont-elles assez faibles pour aimer là où elles ne peuvent être aimées ? C'est déjà une folie chez un homme, mais il se guérit promptement de sa blessure et revient vite pour livrer de nouveaux batailles sur un autre terrain. »
« N'aurons-nous pas un peu de musique ?» demanda Mrs. Winstanley avec nonchalance. « Lord Mallow, décidez donc Violette à chanter avec vous un duo de Mendelssohn. »«
Maman, je ne pourrais pas donner la moindre note. Je suis affreusement enrouée. »«
Cela ne m'étonne pas, » répondit le capitaine en interrompant sa lecture. « Vous avez pris froid la nuit dernière, lorsque vous admiriez la lune avec le jeune Vaudrey. »«
Quelle imprudence, Violette !» dit Mrs. Winstanley d'un ton plaintif.
« Je n'ai pas eu froid, maman, j'avais mon manteau. »«
Mais vous avouez avoir attrapé un rhume. »« Je déteste les rhumes, ils se propagent toujours dans une maison. »«
Je suis certaine d'en être la première victime, et pour moi c'est un martyr. »«
Venez faire une partie de billard, » dit le capitaine en posant son journal.
« Sur mon honneur, je préfère rester au coin du feu à regarder Mrs. Winstanley travailler à sa jolie dentelle. »
« Je suis terriblement paresseux après ma promenade dans ces humides plantations, » répondit Lord Mallow,
qui éprouvait, à se trouver auprès de celle qu'il aimait, un étrange plaisir mêlé d'amers regrets. Elle était cachée dans un coin sombre, abritée d'un côté par la draperie en velours de la cheminée et de l'autre par le fauteuil de sa mère. Ainsi placée, il pouvait apercevoir, et encore, de temps à autre seulement, ses belles nattes lorsqu'elle baissait la tête sur son livre ouvert. Cela lui suffisait et il se sentait encore heureux de se savoir près d'elle.
« Mais en tout cas, Mallow, vous pouvez nous chanter quelque chose, » dit le capitaine en comprimant un bâillement. « Vous vous accompagnez parfaitement quand vous le voulez. »«
Si vous le désirez, Mrs. Winstanley, je chanterai, » répondit Lord Mallow.
« Mais je crains que vous ne soyez fatigué de mon répertoire, qui est assez limité. »«
Vous chantez délicieusement, » reprit Mrs. Winstanley. L'Irlandais alla s'asseoir au piano, donna un accord ou deux, et commença une mélodie de Moore. Avant la fin de la romance, Violette avait embrassé sa mère et s'était glissée sans bruit hors du salon. Lord Mallow la vit s'en aller, et sa voix se brisa tout à coup lorsque la porte se referma. On aurait dit un sanglot étouffé. Quand, le lendemain, Vixen descendit pour le déjeuner, elle trouva le couvert mis seulement pour 3 personnes. « Où est Lord Mallow ?» demanda-t-elle à Forbes quand il apporta la théière. « Il est parti par le premier train. Le capitaine Winstanley l'a conduit à Lyndhurst. » Les anciens domestiques n'avaient pas encore pu s'habituer à appeler le capitaine « mon maître ». Il n'était toujours pour eux que le capitaine Winstanley. Violette jouait avec Argus devant le feu quand le capitaine rentra. Forbes apporta le déjeuner. « Vous pouvez verser le thé, Violette. Votre mère se sent un peu lasse et déjeunera dans sa chambre. »« Alors, si vous voulez bien m'excuser, j'irai déjeuner avec elle, » dit Vixen. « Elle sera contente de me voir, je crois. » Elle a la tête fatiguée et sera mieux seule. Restez, Violette, je vous en prie. J'ai quelque chose de sérieux à vous dire. » Violette ne continua pas de verser le thé. Elle se croisa les mains sur ses genoux et regarda le capitaine avec une expression résolue, bien rare chez une femme. « Allez-vous me parler de Lord Mallow ?» demanda-t-elle. « Oui. » « Épargnez-vous cette peine, ce serait inutile. » « Je ne puis concevoir que vous soyez assez sotte pour refuser un si brillant parti. Un homme qui a pour lui la jeunesse, la beauté, la richesse, une position superbe. »« Épargnez-moi le catalogue des mérites de votre ami. Je le crois très estimable. Je lui sais une belle position et de la fortune, mais je n'en veux pas. »« Vous changerez d'idée. Je ne change jamais. »« Vous vous repentirez plus tard de votre folie, Miss Tempest. » Vous la regretterez amèrement et vous n'aurez que ce que vous méritiez. C'est une occasion unique. Qui donc êtes-vous pour faire fi d'un tel homme? Je suis une femme qui préfère mourir plutôt que d'épouser un homme que je ne pourrais loyalement aimer, répondit Vixen avec une extrême fermeté. Je crois comprendre vos motifs. Lord Mallow n'a jamais eu aucune chance de réussir auprès de vous. La place était prise avant son arrivée. « Vous êtes bien folle de repousser une si belle occasion pour l'amour d'un homme destiné à une autre femme. »« Comment osez-vous dire pareille infamie ?» s'écria Vixen. « Vous avez usurpé la place de mon père. Vous m'avez volé le cœur de ma mère. N'ai-je pas assez de raisons pour vous haïr ? Il ne me reste qu'un seul ami au monde, Roderick Vaudrey. Et vous m'insultez parce que je me rattache à cette vieille amitié, la seule chose qui me reste de mon heureuse enfance ?» « Si l'amitié est tout ce que vous désirez, vous pourriez avoir une douzaine d'amis comme cela, et par-dessus le marché être Lady Mallow !» riposta le capitaine avec mépris. « Vous êtes une niaise de désespérer de cet homme. Mais je crois inutile d'essayer de vous faire entendre raison. Je ne suis pas votre père, le serais-je même que vous n'en feriez pas moins à votre tête, en dépit de toutes mes observations. Mon père ne m'aurait pas demandé d'épouser un homme que je n'aime pas, répondit fièrement Vixen, les yeux remplis de larmes à ce cher souvenir. Il n'aurait pris garde ni à la fortune, ni au rang de Lord Mallow. « Mais vous aimez, vous, les belles affaires !» ajouta-t-elle, les yeux flamboyants et les lèvres serrées par le mépris. « Après avoir vendu Bullfinch, vous voulez me vendre à mon tour. Par le ciel, mademoiselle, je plains l'homme assez fou pour vous acheter !» s'écria le capitaine, quittant la table sans avoir mangé et laissant Vixen maîtresse de la place.